voulais poser une question à Claude. Parmi les remèdes que vous, dont vous parlez, on peut se passer d'argent aussi pour échanger des services. Ben, c'est ce que j'ai fait moi
Oui, mais attends, ça fait partie des selles ou ça fait partie des...
Non, absolument pas. Je peux vous dire une chose. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de la Bolivie. Vous avez donc Evo Morales qui a été élu président à la suite d'une action qui a été menée en grande partie par Soros, mais grâce à un élément déclencheur qui était les insurrections faites par les paysans aymaras des Hauts Plateaux sous la direction de Felipe Quispe, qui est un... Les aymaras, ce sont des guerriers. Et Felipe Quispe est le chef des aymaras de Achacachi, près du lac Titicaca. Ce sont vraiment des sauvages. Mais je les respecte. Et donc, si vous voulez, ils sont servis de ces paysans des Hauts Plateaux, qui sont très rustres, qui sont très rustiques, pour pouvoir faire des soulèvements. Ils faisaient les bloqueos, enfin, ils bloquaient toutes les routes qui menaient vers la capitale, quelquefois pendant des semaines. Ils ont bloqué également La Paz. Et quand ils ont commencé à bloquer le centre résidentiel de La Paz et les grands magasins, là, les gens commençaient à avoir peur. Mais c'est que ces paysans, ils vivent encore en grande partie de troc, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant, à cause de l'urbanisation, ils ont une petite maison à El Alto au-dessus de La Paz, mais ils ont tous des chacras, ils ont tous des champs avec des animaux, des bestiaux, etc. Et alors ils font des échanges sans monnaie avec des communautés paysannes qui sont situées plus bas dans la montagne, qui ont du maïs par exemple, donc ils échangent du fromage contre le maïs. Et ça, ils le font tout le temps, de sorte que vous avez une économie parallèle qui fonctionne sans argent, et qui est donc indépendante. Et on s'est servi, si vous voulez, de cette force, et en même temps de la vaillance des aymaras pour pouvoir bloquer le pays et permettre l'élection d'un Evo Morales. Maintenant, sur le plan tout à fait personnel, quand nous avons acheté une propriété dans les sud des Andes avec une petite économie, une voiture, une 4x4 qu'on avait en Bolivie qui ne pouvait pas rentrer au Pérou, une Land Cruiser, etc., eh bien, on n'avait pas d'argent. Et j'avais une propriété de 100 hectares dont une toute petite partie était cultivée par le paysan qui était en fait métayer, les anciens propriétaires qui étaient partis à Miami. Et alors, je ne savais pas comment faire. Mais c'est-à-dire que nous avions dans les Andes, j'ai pas eu le temps d'en parler, puis il n'y avait pas de photos, mais vous avez un système d'irrigation absolument extraordinaire où vous dérivez l'eau d'un ruisseau, vous allez la faire courir sur la pente et vous allez arroser comme ça toute une série de cultures. Donc nous, on avait de l'eau, on n'avait pas d'argent. Mais en revanche, nos voisins, qui sont tous des petits propriétaires avec du bétail, parce que c'est leur ressource, mais comme la saison sèche est très importante, ils n'avaient pas de pâturage. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus nous voir en disant, écoutez, vous avez du pâturage, nous on a des vaches, vous ne voulez pas nous donner du pâturage? Je disais, oui, d'accord. Et donc, alors, c'est tant de soleil, c'est tant de tel prix la journée et par animal. Bon, puis ça varie si c'est une vache, si c'est... etc. Ils me disent, mais on n'a pas d'argent. Et comment vous pouvez payer alors? Eh bien, on travaille. Et donc, finalement, ils payaient en travail, en labourant de la terre, en construisant, en remettant sur pied les murs qui étaient abattus, les choses comme ça. Et donc, j'ai pu faire des trucs absolument incroyables, sans un centime, et en se rendant service comme ça les uns les autres. Mais c'est que ça peut aller très loin, cette affaire-là. Parce que c'est quelque chose qui est encore, si vous voulez, s'il y avait au niveau politique quelqu'un qui voulait développer ce système-là, mais c'est dans les coutumes des gens, c'est comme ça. Ouais. D'autant plus que dans les Andes, il y a plein de communautés, il y a un système de communautés qui est encore extrêmement vivant et qu'on cherche à démolir. On cherche à démolir, parce que maintenant on cherche à faire vendre toutes les terres et les terres communales à des investisseurs et sont des conditions qui sont beaucoup plus, qui sont facilitées, vous comprenez? Ouais. Il y a quand même, indépendamment, si vous voulez, de systèmes économiques officiels, il y a quelquefois des usages ou des coutumes qui sont quelquefois dictés par la nécessité et qui font qu'on peut...
C'est ce que j'ai dit sur le plan local, les selles ou l'équivalent permet effectivement de résoudre un problème. Mais comment vos gens font-ils pour acheter leur 4x4 ou pour acheter leur matériel agricole? Ben voilà. Mais s'ils voulaient en acheter un, ça marche pas. Ou si pour payer leurs impôts, s'ils ont des impôts à payer, ils peuvent pas payer avec ça. Voilà. Non mais encore une fois, c'est très limité dans un cadre. J'ai des exemples, je ne vais pas citer parce que j'ai pas de temps, mais il y a des exemples moi qui m'ont sidéré. Au Japon, il y a des trucs. Au Japon, qui est pas un pays totalement sous-développé, hein. Il y a un système au Japon d'un type. Il y a un livre tout à fait intéressant que je n'ai pas réussi à le trouver, mais j'en ai lu des commentaires suffisants, d'un dénommé, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Lietard, ça s'écrit L-I-E-T-A-E-R, Bernard Lietard. Donc il a fait un bouquin, et il fait plusieurs études d'ailleurs sur justement ces monnaies qu'il appelle alternatives. Donc c'est pas des monnaies qui peuvent supplanter, qui peuvent se substituer à la monnaie étatique normale et indispensable, mais ce sont des choses, et il pense, je suis d'accord, je crois qu'effectivement, il y aura de plus en plus d'exemples. Actuellement, il y a plus de 4000 communautés dans le monde, 4000 dans le monde, qui utilisent leur monnaie privée à des fins sociales. Par exemple, au Japon, il y a 300 ou 400 systèmes de monnaie privée pour payer les soins aux personnes âgées qui ne sont pas couvertes par l'assurance nationale. On les appelle des... c'est Furea Ikipu, prononciation pas garantie, ticket de soins. Voilà comment ça marche. Disons que dans ma rue vit un vieux monsieur handicapé qui ne peut pas faire ses courses tout seul. Je l'ai fait pour lui, je prépare son repas, je l'aide pour son bain rituel, très important au Japon. Pour cette aide, j'obtiens des crédits que je dépose dans un compte d'épargne. Et lorsque je suis malade, je peux avoir l'aide d'autres personnes, ou bien je puis envoyer électroniquement mes crédits à ma mère qui habite à l'autre bout du pays, et quelqu'un prend soin d'elle, etc., etc. Donc, il ne s'agit pas de monnaie alternative, mais de monnaie complémentaire. Elle permet de satisfaire des besoins non satisfaits par des ressources inemployées. Ça, c'est une très très bonne formule. Hein. Elle permet de satisfaire des besoins non satisfaits par des ressources inemployées. Parce qu'il y a des gens qui ont des capacités, qui peuvent justement vous faire des travaux, vous faire des choses, mais ils n'ont pas d'argent. Et d'autre part, il y a des gens qui ont besoin de ça et qui, eux, non plus, n'ont pas d'argent. Issachar, ça n'existait pas de mon temps, mais ça existe maintenant, c'est les Issachar Ahor qui permet de payer une partie de leur... Il y a des gens qui acceptent qu'une partie du loyer soit payée avec cette monnaie. C'est une monnaie où, là aussi, vous travaillez... C'est une heure de travail, donc vous travaillez pendant une heure pour quelqu'un, il vous donne un bon...
Dans le CEP numéro 5, il y a un article sur l'Issachar Ahor, qui est dans l'État de New York, donc pas un pays sous-développé non plus. Enfin, mais peut-être en voie de sous-développement.
Ce qui est amusant, par exemple, c'est qu'au Brésil, Curitiba, c'est la capitale de l'État du Parana, si vous apportez vos ordures triées, vous avez des jetons de bus. À Curitiba, le transport public fait manifestement partie de leur système de monnaie complémentaire. Tout dépend de qui veut participer. Et l'attitude des gens envers l'argent n'est pas la même selon qu'il s'agit de la monnaie nationale ou d'une monnaie complémentaire. Celle-ci permet une société plus douce, moins agressive. Exemple de Bali. Contrairement à ce que croyait Adam Smith, la monnaie n'est pas une valeur neutre. Elle n'est pas un moyen d'échange passif. Elle affecte la nature des relations que nous avons dans l'acte d'échange. Au Japon, une enquête a montré à propos des Furea Ikipu que les bénéficiaires des soins préféraient les services fournis par les gens payés en Furea Ikipu. Les relations sont différentes, donc la monnaie n'est pas... Voilà, etc., etc. Donc, les monnaies locales, vrai, oui, ça peut aider, mais ce n'est pas la solution.
Bon, enfin, une précision et une question. La précision que vous auriez pu dire, je dirais en ce qui concerne les subprimes, c'est que la sophistication a été jusqu'à découper les titres de subprimes en petits confettis, je dirais, qui étaient mis dans des pochettes surprise, je dirais, avec d'autres produits qui étaient de bonne qualité. Oui. Ce qui fait que c'est l'intégralité de la pochette surprise qui est pourrie, je dirais, par ces quelques confettis, je dirais, dans lesquels, je dirais, et on ne sait plus, effectivement, il est banqué dans la succession dans la succession des opérations, plus personne ne sait ce qu'il y a vraiment dans la pochette surprise. Donc plus personne ne connaît vraiment les risques réels.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des trucs dans les tribunaux, dans les actions judiciaires, les juges sont absolument cloués au sol parce qu'ils sont incapables de comprendre ce qu'il y a dans le truc et qui a fait quoi. Voilà, c'est bien.
Bon, il y a juste une question derrière. Vous avez évoqué donc à un moment, je dirais, pour le pétrole, l'origine du pétrole, en disant que l'origine n'est pas organique. Alors, quelle est l'origine du pétrole, je dirais?
Il est formé
comment?
Il vient de la profondeur de la Terre. Il vient de la profondeur de la Terre. Il monte dans des cheminées bien que les Russes, notamment, ont parfaitement définies. Et c'est pour ça qu'ils se sont même aperçus que les réservoirs se reconstituaient. Ils avaient beau pomper, le réservoir se reconstituait parce que la Terre, à certains endroits, réenvoyait d'autres pétroles. Et ça, c'est dans des roches volcaniques ou dans des roches granitiques. Il y a des tas de gisements. Si vous regardez le débit, l'immensité de certains gisements, essayez de mesurer quel était le volume de déchets biologiques nécessaires pour arriver à une telle... C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que je constate, c'est que les Russes, contrairement justement à toutes les théories en vigueur en matière de recherche pétrolière, comme ils n'avaient pas accès aux données américaines qui, pendant la guerre froide, ça remonte à la recherche des années 50. Comme ils n'avaient pas accès aux sociétés américaines de recherche, ils ont travaillé eux-mêmes. Et pour expliquer moi comment ils ont pu trouver dans des endroits, dans des roches granitiques et dans...
Je crois que le mieux, c'est de partager notre ignorance sur un sujet qui, effectivement, dont nous n'avons ici ni les uns ni les autres les moyens d'aller au fait. Non, mais là, ce sont des théories. Ce qui compte, ce sont la réalité, ce sont les faits. Alors maintenant, après, expliquer...
l'origine de ces faits, parce que en ce qui concerne l'origine du pétrole, vous savez qu'on fait du pétrole en 20 minutes, hein, dans certaines circonstances. Donc, vous parliez du magma tout à l'heure. En 1935 à la Sorbonne, Viat a fait des expériences de fabrication de granit. Hein, alors évidemment, à 200 degrés de température, 200 bars de pression, mais il arrivait à fabriquer du granit en une journée. Ce que je veux dire, c'est que peut se passer beaucoup de choses dans les profondeurs de la Terre, et les quelques trous qu'on a fait à droite et à gauche dans la Terre sont très peu de choses par rapport à ce qu'il faudrait connaître pour vraiment savoir quelles sont, en particulier, la question qui est posée, l'origine de ces hydrocarbures souterrains. C'est comme la présence, il y a d'immenses masses d'eau chaude, donc dans assez grande profondeur dans le sol. On ne sait pas très bien d'où ça vient. Enfin, alors ça peut venir du déluge, comme vous dites, mais je crois qu'il faut accepter notre ignorance en ce qui concerne le sous-sol à grande profondeur. Parce que même par la sismique, on ne va pas si profond que ça.
Oui, je voulais rebondir sur la question des échanges locaux et des monnaies locales. Parce qu'en fait, on est dans une situation de crise qui peut déboucher sur des catastrophes très rapides. Et il y a une chose dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu vous dire encore. Dans le développement durable, il y a quelque chose qui doit être intégré. J'en ai parlé, mais je n'ai pas donné de détails. C'est la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire des pays à l'heure actuelle, il y a beaucoup de pays dans lesquels elle est en situation dramatique. Et la Suisse, à la suite de la dernière guerre, s'est constituée une agriculture. Et l'agriculture est considérée tellement importante en Suisse qu'elle dépend du ministère de la Défense. Alors, c'est vous dire l'évolution qu'ils ont fait à cet égard. Et en France, après la dernière guerre, les réserves alimentaires disponibles dans le pays, elles correspondaient à un mois et quelques jours. Et est-ce que vous avez une idée de combien sont les réserves alimentaires aujourd'hui en France? Vous avez 2 jours. Tous les matins, vous voyez les magasins qui sont pleins de marchandises qui sont arrivées de partout la veille, dans la nuit. Et s'il y avait la moindre chose qui se passait, c'est la famine. On n'a jamais été dans une situation telle de fragilité. Alors, à ce point de vue-là, les systèmes locaux, les agricultures vivrières, pas seulement pour l'Afrique, mais pour la France, ça va devenir quelque chose de vital. Et c'est pour ça que les jardins, les petites agricultures vont devenir nécessaires. Et en Afrique, je vous parlais de ce Malien qui disait que l'Afrique ne peut pas s'en sortir dans un système de marché. Et dans un système dont vous parliez comme les échanges, eh bien, dans un système d'échange, l'Afrique peut s'en sortir. Et je crains bien que ça puisse devenir vital aussi pour la France, parce qu'on n'a pas de réserve. On n'a aucune réserve. Les produits arrivent, ils font des milliers de kilomètres chaque jour, et la moindre chose, en 48 heures, les gens sont affamés. Et autrefois, ils avaient un peu de réserve, mais les gens qui habitent dans les villes, qu'est-ce que vous voulez entreposer dans les villes? Les gens les mieux équipés, ils ont un congélateur, une panne de courant, et tout disparaît en quelques instants. Donc la famine, on est au bord, on dit qu'on n'a jamais été dans une telle sécurité. D'abord, on voit au niveau du parasitisme, des maladies dans l'agriculture, qu'il y a une fragilité formidable. Mais au niveau économique et de la disponibilité, la situation est dramatique. Et ça, on n'en parle jamais. Alors la sécurité alimentaire, c'est quand même un problème clé. Alors, les questions d'échange, eh bien, je vous parlais de ce mouvement qui se développe sur les AMAP. Je crois que c'est un élément déterminant. Et dans les villes, on se demande ce qui se passera s'il y a la moindre chose. Alors, je voulais souligner cet aspect qui n'est pas du tout pris en compte.
Non, effectivement, c'est important. D'ailleurs, je crois qu'en Suisse, le gouvernement impose aux citoyens d'avoir 15 jours de... C'est ça, c'est 15 jours, hein, à la maison. C'est-à-dire que le gouvernement, en cas de catastrophe, etc., est prêt à aider les gens, mais il se donne 15 jours pour commencer à leur amener des nouilles, etc. Et les gens ont l'obligation légale, hein, d'être effectivement en autarcie alimentaire pendant 15 jours. Actuellement, par exemple, les réserves, le report de récolte de blé, qui est quand même un des aliments majeurs actuellement, est de l'ordre de 2 mois de consommation pour l'ensemble du globe terrestre. Les réserves de blé sont au plus bas depuis 30 ans.